le Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
C'est l'auteur H.G. Wells qui avait inventé en littérature, écrit un roman sur la machine à remonter le temps. Et il nous a emmenés, nous, quand on était gamins, dans des aventures innombrables à travers les époques. Eh bien, il y en a quelques-uns qui nous proposent de nous replonger dans une époque chérie et pas si lointaine, finalement. C'était l'âge classique du rock, avec le spectacle qui de retour, en fait, au Festival Off en cette année 2022, la machine à remonter le rock, dont je reçois l'équipe. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Alors, il y a parmi vous le groupe Old Jones Radio, un trio, ouais, en fait.
C'est nous.
Voilà, et vous incarnez des semi-humanoïdes plus ou moins robots sur scène. On aura l'occasion d'y revenir. Et à vos côtés, il y a le metteur en scène du spectacle, Kevin Gorette. Bonjour.
Enchanté.
Voilà, il y a un petit temps de latence parce que vous n'avez que deux micros, ouais, et vous êtes quatre grandes gueules, si j'ose dire, hein, des gars du sud-ouest, bon vivant et musicien.
On voit pas de quoi vous parler, quand même.
Un petit peu comme l'était Cyrano de Bergerac en son temps, mais vous êtes un petit peu plus rock'n'roll. Alors, vous êtes au sein de la compagnie 22h04. Et alors, déjà, d'entrée de jeu, vous nous embrouillez parce que le spectacle a lieu à 22h15.
Oui. L'année dernière, il avait lieu à 22h04 parce qu'en temps de Covid, on avait pu manipuler le temps pour arriver du coup à avoir notre horaire du coup qui est le nom de la compagnie. Mais cette année, vu que le théâtre est complet, on n'a pas pu avoir l'horaire à 22h04, donc c'est bien 22h15.
15, très bien. Ben, on vous pardonnera ces 6 minutes
c'est
de
gentil.
Retard qui seront l'occasion en fin de spectacle de faire quelques rappels, j'en suis sûr. C'est au théâtre L'Arrache-Cœur, donc à 22h15 jusqu'au 30 juillet, relâche les 16, 19 et 26 juillet. La machine à remonter le rock, je disais, c'est un retour au Festival Off puisque vous l'aviez déjà joué l'an dernier.
C'est ça, et on était complet quasiment tous les soirs. En passant. Non, oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai, le soir où j'étais venu vous voir, c'était,
ouais,
en
ouais,
fin de
ouais,
festival.
Non, c'était une
J'avais
belle...
une chaise qui avait été arrachée justement, ouais, ouais. Au bar, et j'étais tout seul dans un coin, presque sur la scène en fait.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'était on le jouait pour la première fois l'année dernière au Festival d'Avignon, donc on avait beaucoup de pression, on savait pas comment ça allait être reçu par le public. On avait
c'est
beaucoup
ce festival,
de
toute cette pression.
Comment ?
C'est ce festival, toute cette pression.
Ah là là, on s'en sort pas. Non mais oui, on avait beaucoup d'attentes en fait, on avait hâte de savoir comment ça allait être reçu par le public. Et on a été très heureux, ça a été très très bien reçu. Et du coup voilà, ça nous a donné envie de remettre le couvert cette année, en bonne et due forme, donc on est là.
Et en cours d'année, vous n'êtes pas resté inactif, loin s'en faut, puisque vous avez fait tourner ce spectacle à l'occasion de quelques dates en cours d'année, dans des circonstances qui n'étaient pas faciles, parce qu'on n'était vraiment pas encore sorti du Covid, il y avait des passes sanitaires, des restrictions, etc. Donc ça, vous êtes allé un petit peu par Mons et par Vaud, et par où en fait ?
Ouais, on a fait un peu tourner, on est allé à Dieulfi, on est allé à Moret-sur-Loing, pas très loin de Fontainebleau, on l'a joué à Toulouse aussi. Voilà, ça s'est super bien passé à chaque fois, malgré les contraintes. On a fait salle comble quasi à chaque fois. Des super retours, divers et variés, des gens qui sortaient en ayant ou la banane ou des gens qui ont pleuré d'émotion parce que ça leur a rappelé des souvenirs. Donc voilà, c'était une super expérience toute cette année déjà.
Voilà, de l'été 2021 à juillet 2022, comme disait ce grand philosophe Jean-Claude Van Damme, vous avez eu un full cycle et vous recommencez le cycle. Cycle que je vous souhaite aussi fructueux.
J'adore l'arrêt.
On espère.
Ah bah oui, on a des références littéraires ou pas, monsieur, enfin. Et alors, donc cette création 2021, en fait, avait été élaborée un petit peu de manière compliquée. Vous avez été ennuyé en 2020, notamment, quand vous avez commencé l'écriture, Thibaut et Damien. Thibaut et Florent, pardon, ouais. Excusez-moi. Vous êtes le trio Old John Radio, il y a Thibaut, Damien, Florent et Damien, voilà, respectivement à la caméra si vous nous regardez en vidéo sur Facebook. Et donc je disais, vous aviez été un petit peu ennuyé au cours de l'élaboration de ce spectacle en 2020, évidemment par les restrictions, les confinements. Ça vous a un petit peu contrarié pour l'été 2020, finalement ça vous a laissé d'autant plus de temps.
Oui, complètement, ouais, c'est ça. C'est que, en fait, on a commencé l'écriture assez tard, en janvier 2020, pour finalement Avignon qui allait se passer en juillet. Donc c'était un pari un peu fou, mais c'était pas plus mal parce que ça nous a mis une pression pour l'écriture. Du coup on s'est enfermé en Dordogne dans une maison, on a écrit pendant 3-4 mois du matin au soir, donc ça a été assez efficace pour ça. Mais par contre clairement on n'aurait pas eu le temps de construire après tout le spectacle pour arriver prêt à Avignon. Donc c'est là que le Covid nous a bien aidé parce qu'il a repoussé l'échéance à l'année d'après et ça nous a permis d'arriver prêt comme jamais, quoi. Donc ouais, c'est cool.
Alors je précise que vous êtes tous originaires de Pau, et à partir de là, donc, vous avez fait un tour de France avec ce spectacle. Vous avez commencé par Avignon en juillet 2021. Alors très rapidement, je précise un peu le pitch du spectacle. Il s'agit donc, qui dit machine infernale dit savant fou. Et il y a en fait, dans le rôle de ce savant fou, il y a votre collègue Georges Dautignon, qui incarne un petit peu un ancien... animateur radio, en fait, qui a connu les heures de gloire du rock'n'roll dans les années 50-60, à l'époque où c'était largement subversif, et qui décide d'une machination, justement, au moyen de cet outil mécanique, cybernétique, bizarre, dans lequel ce démiurge crée, en fait, un trio de robots androïdes qui jouent du rock sur scène et que vous incarnez, messieurs. Alors, à partir de cette histoire, enfin, après, il a un plan de domination, sinon du monde, au moins des ondes mondiales, va-t-il y arriver ? Tatatin, ça, il faudra aller voir le spectacle pour le savoir. Mais
tu vas venir tracter avec nous, toi.
Ah zut, grillé. Alors, comment, en fait, donc cette écriture s'est faite, a eu le temps de l'élaboration, mais au niveau de l'élaboration des décors, je retrouve pour ma part plusieurs influences. Déjà, dans votre allure robotique en costume croisé, messieurs, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Kraftwerk par rapport à mes références de musique électronique. J'ai aussi pensé par rapport aux appareillages étranges du savant fou en question, de cet animateur radio, évidemment, l'univers de Fallout, le jeu vidéo Fallout, et aussi, bien entendu, dans l'ambiance un petit peu comment dirais-je, science-fiction, mais en même temps qui se prend pas au sérieux, comédie. Il y a aussi évidemment l'influence de Retour vers le futur, ce fameux film des années 80. Donc je me dis, quelles ont été, vous, les influences qui vous ont marqué et qui vous ont amené à élaborer non seulement ce spectacle, mais surtout à avoir des parties prises de mise en scène? Qui veut commencer?
Tu veux commencer, Kevin? T'as l'air...
Tu peux dire?
Moi, ça touche juste, en fait, Fallout. C'est carrément une référence qu'on a eue pour le côté un peu post-apocalyptique et surtout où on a un peu de mal à situer dans l'époque. On a aussi voulu faire quelque chose de très steampunk, c'est-à-dire une machinerie qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Il y a de la vidéo tactile et à la fois des leviers qui font un bruit énorme. Voilà, après, c'était quoi comme référence? Kraftwerk aussi
Ouais, les deux rêves principaux, ce que tu as cité, effectivement, en fait, au début, il y a Fallout, ça rentrait dans le petit carnet de rêves. Et ouais, c'est ça, Retour vers le futur et Good Morning England aussi, pour le côté plus radio, pour le côté plus...
Alors, voilà. Il me semble que Good Morning England, c'était un film sur cette fameuse radio Caroline dans les années 60 qui émettait à partir d'un bateau pour contourner la censure, c'est
exactement,
bien ça?
Exactement, ouais. Mais voilà, ils ont décidé de traiter dans ce film-là ce sujet que nous, on traite aussi, mais c'est pas le sujet du spectacle, quoi, c'est juste un élément... Qu'on raconte dans le spectacle. Et effectivement, c'est une grosse ref qu'on a utilisée.
Clairement. Et, vous, Kevin, et pour continuer un petit peu sur la ref de pop culture, il y a aussi une référence à Frankenstein quand même aussi dans la fin du spectacle. Et je trouve aussi un peu en termes de texture, on pourrait un peu penser à une ambiance un peu à la Tim Burton dans ce truc un peu bizarre où il y a des robots qui sont créés. Enfin voilà. En fait, c'est beaucoup.
Edouard Domaine d'Argent, je suppose.
Oui, un petit peu. Voilà, ce genre de texture, un petit peu. Enfin moi, ça me fait penser un peu à ça. Et c'est vrai que ce spectacle, c'est quand même pas mal de. C'est comme si on avait mis pas mal tous ces éléments dans un mixeur et que ça donne un petit peu la machine à remonter le rock finalement. Ouais.
Vous me tendez la perche pour la transition parce que justement, par rapport à ce personnage de Frankenstein, enfin qui est un petit peu dans la mémoire populaire au point que on connaisse un petit peu l'ambiance sans forcément avoir vu les films des années 1930 avec Boris Karloff dans le rôle de la créature. Eh bien, vous-même, Thibaut, vous avez admis un petit peu à demi mot la dernière fois qu'on s'est rencontré l'an dernier que vous étiez venu de manière un petit peu sinon robotique, du moins un petit peu cybernétique puisque vous êtes venu à la guitare en fait. Par un jeu vidéo, Guitar Hero en l'occurrence.
C'est vrai, bien renseigné. C'est vrai, j'avais oublié qu'on avait dit ça l'année dernière. Ouais, moi je jouais pas mal à la play à Guitar Hero et au bout d'un moment j'aimais tellement ça que je me suis dit ouais, je vais m'acheter une vraie guitare. J'ai eu très mal aux doigts dans un premier temps parce que c'est pas des touches en plastique quoi. Mm-hmm. Et finalement je m'y suis tenu et je me retrouve à faire le robot, ça y est. La boucle est bouclée.
Vous avez un full cycle, vous aussi. Ouais, voilà. Alors, le spectacle donc a été avec un an de décalage, mais a été créé au Festival Off, en tout cas présenté au Festival Off en 2021. Vous revenez en 2022 dans le même théâtre, peu ou prou au même horaire. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de différence avec la première mouture. Les gens qui vous auront aimé l'an dernier, en fait, seront-ils surpris par quelques nouveautés cette année?
Nous aimerons plus cette année. je pense.
Ah, ça, vous êtes non, comme les bons vins, vous vous bonifiez avec le
temps. En vrai, blague à part, hormis les quelques changements, je vous laisserai dire, les gars, mais le spectacle s'est rodé, et du coup, il y a quand même voilà, quoi, encore plus de rythme, il y a des choses qui sont précisées au niveau du jeu, au niveau de plein de choses. On a changé deux, trois petites choses. Qu'est-ce qu'on a changé, notamment un morceau.
On a changé un morceau, voilà, sur la première partie, un morceau qui nous semblait pas être à la hauteur du moment. On s'est dit, bon, ben là, on a trouvé le morceau qu'il fallait, et effectivement, ça se marie bien mieux avec tout ça. Une fin aussi, la fin n'était pas très très sûre, c'était un peu encore l'élément un peu incertain du spectacle, et on a réussi là à trouver une bonne fin entre temps. Qu'est-ce qu'il y a eu encore?
Et aussi on a fait une réflexion des décors, donc il y a quelques trucs qui ont changé, oui, qui sont un peu plus jolis à l'œil, mais en tout cas nous on en est contents. Et bien, voilà pour tout ce qui a changé, ouais.
Alors, quelque chose qui n'a pas changé par contre, c'est un parti pris d'écriture qui m'avait un petit peu intrigué l'an dernier, mais en même temps que je comprends fort bien parce que vous avez une heure trente de spectacle. C'est le parti pris de se focaliser sur la période des années 50 et 60, le choix de ces deux décennies fondatrices pour le genre du rock'n'roll, et de vous focaliser aussi sur les groupes anglais, enfin, américains dans un premier temps, et anglais aussi britanniques en règle générale. Et donc, ces deux pays, ces deux périodes, alors qu'en fait, le rock, ben, il y en a eu dans bien d'autres pays par la suite, et il y en a eu aussi et comment dans les années 70 et 80. Pourtant, vous êtes limité à ça. Pourquoi en fait?
Parce que déjà, c'est vraiment de là que ça part. C'est en Angleterre, enfin aux États-Unis.
Dans les années 50, voilà, c'est États-Unis, donc on pouvait pas parler d'ailleurs. Après, dans les années 60, c'est discutable, mais.
Ouais. Après, ça a été repris partout dans le monde, mais c'est vraiment aussi la langue anglaise qui fait le rock'n'roll. Mm-hmm. Après, en France, il y a eu des émules avec forcément Johnny, Eddie Mitchell, Dick Rivers, etc. Mais finalement, c'était des reprises de Cochrane, de Chuck Berry, qui étaient remises au goût du jour.
Ils traduisaient les paroles et
voilà, ils ressentaient le morceau. Donc, il n'y avait pas ce côté spontané aussi.
Et puis aussi, c'est des lieux iconiques dans l'imaginaire collectif par rapport à ce style. Les États-Unis, Londres, l'Angleterre. Donc effectivement, il y a eu plein de groupes qui ont émergé partout dans le monde, mais c'était quand même les deux pays qui étaient emblématiques de ce style-là et qui le restent aujourd'hui dans la tête des gens. Donc voilà, on est passé par là. Après, on fait quand même des petites pépites qui viennent d'ailleurs.
Il y a un groupe australien dont on parle qui s'appelle Easy Beats.
Ils ont une très bonne scène surf rock là-bas, c'est vrai. Je sais pas si les plages y sont pour quelque chose, mais
sans doute.
Et pourquoi on s'arrête dans les années 70 aussi, c'est parce qu'après, le branchage, il devient trop difficile à suivre et à expliquer, parce que il y a énormément de choses qui vont découler de ces 20 ans d'expérimentation. On a le hard rock, enfin il y a Led Zeppelin qui arrive en 67-68 avec un album qui va être les prémices du hard rock. Après il y aura le metal qui va arriver, le punk au milieu 70, etc. Ouais. Donc en fait on s'arrête là pour...
C'est d'autres histoires qui découlent de celle-ci en fait, et nous on voulait vraiment focaliser sur celle-ci.
On a fait la base. La base.
Roots, voilà.
Basique,
voilà.
Ouais.
Roots, Bloody Roots. Non, excusez-moi, on parlait de métal, c'est pour ça. Excusez-moi. Roots, Bloody Roots, un album de Sepultura, justement, petite référence pour les amateurs de métal. Voilà, chers amis, et donc, on se focalise sur cette période que nous tous, on n'a pas connue sur ce plateau, puisqu'on est nés largement après. Moi, moins que vous, mais tout de même. Et alors, c'est quand même une période qu'on n'a pas vécue, mais qui est largement fantasmée et qu'on a redécouvert après coup et aussi avec bonheur. Alors, c'est une période donc avec ces groupes que vous avez, ces artistes que vous avez cités, Eddie Cochrane, Elvis Presley, les Beatles, bien entendu. Et, puisque ce sont deux pays, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont finalement créé une saine émulation autour de la musique, en tout cas de ce style-là, et les uns ont nourri les autres, et réciproquement en fait. Et finalement, peut-être que le rock serait mort s'il n'y avait pas eu cette petite émulation, sinon compétition.
Bah oui, c'est un petit peu ce qu'on explique aussi dans le spectacle. À la fin des années 50, il y a eu, aux États-Unis, il y a eu un peu le rock s'est soufflé un petit peu, et c'est là que l'Angleterre a commencé à récupérer tout ça, et a sans doute inspiré après les prochains des États-Unis qui se sont... Et voilà, ça s'est auto-alimenté, donc effectivement, c'est assez vrai, je pense que... Les deux pays ont eu besoin les uns des autres pour exister, quoi. Ouais.
Voilà, et donc on retrouve tout ce maelstrom d'influence réciproque dans la playlist de votre spectacle, que vous avez le bon goût d'ailleurs de nous laisser un petit peu écouter sur le site que vous avez créé pour le spectacle, La Machine à Remonter le Rock, évidemment. On mettra un lien sur le site d'Osmose Radio. Voilà, donc un beau spectacle qui est de retour au Festival Off. On peut vous retrouver, disais-je, au Théâtre L'Arrache-Cœur à 22h15 tous les soirs dans cette première semaine du festival. Est-ce que vous êtes satisfait des contacts avec les gens, de l'affluence
Complètement, très très satisfait. Je laisse parler le metteur en scène et producteur par rapport à ça.
Ben on est super satisfait.
Non, parce que lui, pendant qu'il négocie avec les gens qui reçoit, vous êtes en train déjà de taquiner des groupies, c'est ça?
Non. Enfin, alors là,
de ranger le décor.
On
de ranger
est
le
tous
décor.
En train de ranger, même moi, c'est moins sexy. Le décor. Tout le monde, il y a que Noémie Gouzil qui a changé.
Vous gâchez la légende du rock'n'roll
qui s'occupe de tout ça. Mais oui, super content, c'est génial. On a refusé du monde à la générale. On a refusé 8 personnes à la générale qu'on a fait en public le mardi, donc c'était assez dingue. Et après, le remplissage est super chouette, les gens sont super contents. Non, vraiment, on passe un Avignon. C'est l'année dernière en mieux, en fait, un petit peu.
Ouais. Juste dire que moi, je me suis surpris à beaucoup aimer le regard des gens qui ont, pour le coup, vécu cette période, contrairement à nous. Vraiment, ça sent dans leurs yeux qu'ils sont... Moi, je suis caché derrière mes lunettes pendant le truc, donc j'ai le temps d'observer tout le monde. Ils doivent rester fixes et faire les robots à nu. Moi, j'ai de la chance. Du coup, je prends le temps d'observer les regards, et d'autant plus l'année dernière où on avait des masques. Et c'est vrai que dans les regards, tu vois les souvenirs, tu vois le bonheur de ces gens qui ont vécu cette époque-là. Donc ça fait très très plaisir.
En fait, on s'était pas forcément rendu compte de ça. Je pense qu'on l'a fait. On commence à aller toucher des personnes qui ont vécu cette époque, et c'est assez dingue. Quand les gens ressortent en disant waouh, enfin, même des fois ils ont presque pas les mots tellement qu'ils ont vécu un espèce de moment, un vrai retour dans le passé, quoi. Assez dingue, quoi. Donc c'est un bonheur. Non, c'est génial.
Et les petits enfants alors, comment ils réagissent? Parce que j'imagine que c'est aussi un spectacle qui est familial. On peut y aller en amoureux, on peut y aller seul, on peut aussi y aller en famille.
Ouais, complètement, on peut y aller en famille. Nous, ce qu'on a fait dans l'écriture, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez léger, mais aussi vachement pédagogique pour en apprendre plus sur l'histoire du rock, avoir des vraies bases et aussi quelque part pour transmettre cette histoire-là, qu'elle reste pas à croupir un peu dans les livres d'histoire. Donc là, on a eu un petit de 10-11 ans qui est venu il y a 2 jours et qui était complètement déjà fanat de rock, qui connaissait les styles de guitare, etc. Ouais. Et qui s'est régalé. On a pris une photo avec lui et tout. Ouais. Et qui a pris, il a même pris le livre à la fin du spectacle pour pouvoir.
Ça nous est arrivé quelques fois, ouais, qu'il y ait des. Donc il y avait ce gamin-là qui devait être à bonne école puisqu'il connaissait déjà les sons et tout, mais aussi qu'il y ait des enfants, même des ados, qui viennent nous voir à la fin, qui connaissaient peu le style, qu'ils ont dû se faire traîner là par leurs parents, et ils ressortent de là, ils nous ont dit on a adoré, on va aller écouter la playlist, tout ça. Donc ça aussi, c'est clair que ça fait très plaisir de transmettre un petit peu toutes ces bonnes musiques qui ont existé, quoi. Ouais.
Et vous développez justement le travail que vous avez fait sur ce spectacle, vous le développez dans un livre que vous avez élaboré récemment, un livre sur l'histoire du rock.
Ouais, ben c'est ça. Ouais, ouais. Ben oui, en fait, avec Thibaut, on s'est lancé dans l'écriture du coup début d'année. Enfin, c'est ça.
Milieu d'année là.
Ouais. Il y a eu quelques recherches au préalable parce que moi, du coup, j'ai une connaissance sur le rock beaucoup moindre. Du coup, je les ai rejoints en cours de route et du coup, moi, j'étais pas du tout de ces influences-là. Mais du coup, j'ai appris énormément de choses. Et du coup, ça a découlé ce projet-là de livre de 80 pages à peu près. On a fait le parti pris de l'écrire sous comme si c'était John, en fait, le personnage principal qui l'écrivait et qui, du coup, contextualiser un peu les anecdotes qu'il raconte dans le spectacle et du coup on raconte un peu tout ça et c'est vrai que c'était une belle petite aventure, un beau travail d'équipe, quoi.
Ouais, et puis voilà, c'est en sortant du spectacle, en fait, on a vraiment mis tout ce qu'on n'avait pas pu mettre dans l'écriture en termes de pédagogie, parce qu'on a dû faire vachement de coupes pour garder un rythme entre l'histoire de John, qu'est-ce qu'on veut donner comme information, quel temps on laisse à la musique, etc. Et toutes ces recherches là qu'on a fait quand même pendant 2 ou 3 ans, on a voulu les mettre dans un livre pour que ça soit pas perdu et puis pour toujours transmettre cette histoire-là et aussi mettre en lumière des personnes comme Alan Freed ou Ronan O'Reilly, qui sont des gens qui ont été hyper importants à l'époque et dans le milieu de la radio, puisque nous, on prend aussi le prisme de la radio pour raconter notre histoire. Mike Millard, qui a une histoire incroyable. Et aussi Lionel Mapleson, qui est une des premières personnes à avoir enregistré des disques de manière un peu pirate en 1901 sur des disques de cire à l'Opéra de New York. Donc voilà, on trouve pas mal de choses comme ça. Il y a aussi des recommandations pour aller plus loin sur des films, des livres qui ont marqué l'époque, etc. Des chaînes YouTube aussi qui nous parlent de rock.
Des playlists aussi, on a fait 8 playlists. Je me permets de vous citer une anecdote pour la prochaine édition de ce livre-là, mais peut-être que vous la connaissiez déjà. En Russie, on écoutait Radio Free Europe et le rock on écoutait qui était diffusé sur Radio Free Europe. C'est comme ça que les Russes, à l'époque, découvraient la musique occidentale. Okay. Et bien, pour faire des enregistrements pirates, eux, parfois, ils utilisaient récupérer, vous savez, des verres, des disques d'imagerie médicale, en fait, ouais. pour faire des radios. Et ben, il gravait des bootlegs, en fait, des enregistrements radio sur ces trucs-là. Et il les écoutait un peu à l'arrache, en petit ouais. comité, évidemment, pour pas avoir le KGB sur le cul.
Mais on en parlait, je sais pas, je crois qu'on a parlé avec Aurel, qui est notre ingé sur le spectacle, et qui nous disait que c'était ces radios-là. On peut écouter 5 ou 6 fois quoi, parce qu'après en fait le diamant transperce complètement la radio. Ouais, c'est des histoires folles, ces histoires d'enregistrement pirate. Ouais.
Voilà, donc c'est une petite anecdote. Si on commence à citer toutes nos anecdotes, on n'a pas fini, hélas, et on manque de temps. Donc je vais vous laisser nous proposer quelques notes de musique en conclusion de cette interview, messieurs. Je vous laisse vous installer avec vos guitares, vos percussions. Et je précise que ce spectacle, La Machine à remonter le rock, est joué tous les soirs à 22h15 au théâtre L'Arrache-Cœur. Voilà, jusqu'au 30 juillet.
Jusqu'au 30 juillet, exactement. Voilà. On joue pas samedi, là. Ce samedi-là, on a un relâche aussi. Faut le savoir.
D'accord, très voilà. bien. Donc, sinon, les relâches, c'est le 16, le 19, le 26.
Le mardi.
Et donc,
c'est exactement
voilà,
ça.
Le mardi. Et ce samedi-là, exceptionnellement. Voilà, la compagnie 22h04, dont le trio, le groupe All Jones Radio. D'ailleurs, petite dédicace à l'absent d'aujourd'hui, mais un grand monsieur au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il fait bien 2 mètres, ce gars-là. Georges Dodignan, je n'écorche pas son nom, ça va ?
Georges Dodignan.
Ouais. Dodignan, pardon, qui, lui, justement, est un petit peu le catalyseur de l'attention sur scène et qui est un DJ, en fait, un animateur radio assez mémorable quand on le découvre dans votre spectacle. Voilà, vous nous proposez un morceau des Beatles à l'époque où ils ne s'appelaient pas encore les Beatles mais les Quarrymen, un morceau qui s'appelle In Spite of All the Danger.
In spite of all the danger, in spite of all that may be, if you be true to me, in spite of all the heartache that you make on me, I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. In spite of all the danger, in spite of all that may be, I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. For the heartache that you make on me, I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me.
Merci beaucoup.
Merci.